Aujourd'hui, sur Radio Campus 106,6 FM, j'ai le plaisir, le grand plaisir d'accueillir Roland Franz Depau. Roland Depau, pour ceux qui connaissent un peu les planches, le théâtre. Bonjour Roland.
Bonjour.
Voilà, donc, on se connaît au travers de l'œuvre que vous avez réalisée au fil du temps, puisque ça fait presque des décennies maintenant, hein, que vous œuvrez dans le théâtre, dans la création théâtrale, que vous brûlez les planches et que vous les faites brûler par d'autres.
Oui, que j'échange surtout, parce que je fais ce métier par envie d'échanger, hein, voilà. Pas nécessairement, évidemment, il y a toujours une réalisation personnelle, bien entendu, mais j'aime ce métier parce qu'il est, on ne peut pas imaginer du théâtre tout seul. Oui, il y en a qui le font, bien entendu. Je ne sais plus qui disait ça. Je pense que c'est Jouvet ou quelqu'un du cartel, du fameux cartel, qui disait « Donnez-moi quatre planches, un texte et voilà, un comédien et je vous fais du théâtre ». Mais je pense que le théâtre, pour moi, est davantage un dialogue, d'abord. Et, parce que le premier dialogue, c'est soi avec le public. Et donc, et quand il y a un autre comédien, c'est encore plus passionnant. Et quand il y en a encore d'autres, beaucoup de comédiens, c'est encore plus passionnant parce que on a une représentation, enfin le spectateur, il a une représentation devant lui de ce que j'appelle, moi, la véritable communauté, même si on joue tous des rôles sur un plateau, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se passe entre des êtres humains. Moi, je pense que le bonheur, il est là.
Alors, on a le temps, c'est le luxe de Radio Campus, c'est de prendre le temps de développer un minimum les choses. Je veux dire, vraiment un minimum, on ne peut pas aller en dessous, ou alors on ne parle de rien.
Bah, oui.
Bon, il y en a qui ne parlent de rien en permanence, mais je veux dire, on essaie quand même d'entrer un peu dans les sujets, si possible. Donc là, on va à la fois parler de la création, hein, de l'écrit, de cet écrit qui vit ensuite, de qui fait vivre ses écrits et de sa réaction avec le public, cette rencontre qui est à plusieurs niveaux. Donc, alors, prenons pour le cas, hein, prenons le cas d'un spectacle dont on va parler, hein, c'est la compagnie La Femme et l'Homme Debout, qui donc produit un spectacle qui s'intitule Bébé Bock.
Oui.
Donc Bock comme bocal.
Oui, voilà, c'est venu comme ça, parce qu'on a parlé on a imaginé à la base d'abord c'est né un petit peu comme ça le fait de dans l'avenir, paraît-il il existerait un utérus artificiel, enfin. Enfin, c'est une chose qui devient de plus en plus plausible, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des scientifiques, des gens très pointus là, dans ce domaine. Et donc, et à partir de là, cette idée qu'on ferait un enfant dans un bocal, enfin, comme une plante, on ferait pousser un enfant dans un bocal en l'arrosant de temps en temps, cette idée nous a fait rire un moment. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi pas, dans le fond, pourquoi pas s'attaquer à un sujet apparemment très lointain et pratiquement fantaisiste. Et pourquoi pas interroger la réalité de ça. C'est ce que j'ai fait finalement. Et j'ai plongé un petit peu dans pas mal de livres, j'ai vu pas mal de vidéos, etc. Et je me suis rendu compte que c'était un sujet effectivement drôle, qui peut l'être, mais aussi très sérieux dans le fond.
Alors Roland Depau, quand vous dites « on s'est dit », ça donne bien l'idée aussi que pour parfois, hein, faire naître des œuvres, une rencontre, ça peut être intéressant.
Oui, ça c'était Bébé Bock, en tous les cas, avec la compagnie dirigée par Catherine Goss, est véritablement issu. Le sujet est venu d'un échange entre nous. Catherine m'a proposé de travailler avec elle sur le masculin et le féminin. Et voilà, un jour, on a évoqué l'idée du bébé dans le bocal parce que il y a le mouvement féministe a déclaré que le jour où la femme cesserait d'enfanter, ce jour-là, il y aurait une égalité réelle entre l'homme et la femme. Et cette chose-là, évidemment, nous a amené à traiter le sujet de Bébé Bock de façon sérieuse, mais aussi drôle, évidemment. Et ça, moi, personnellement, ça, alors je parle de moi, j'aime traiter le sérieux. sérieux avec drôlerie. Pour moi, c'est très important. C'est cette fameuse proposition d'Empateba, hein, cet auteur célèbre africain qui dit que instruire en amusant. Et pour moi, il n'y a pas d'autres instructions que ça. L'instruction est d'abord un divertissement, mais pas n'importe lequel. Et ici, voilà, l'envie de faire une comédie en partant de l'histoire d'un couple, un peu le Roméo et Juliette du futur, mais pas le Roméo et Juliette qui serait jeune, un Roméo et Juliette de gens très âgés, puisqu'on dit que dans l'avenir, on vivra peut-être 1000 ans, hein, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un fameux Laurent Stéphane, je pense, qui l'a dit, et même Google est en train de travailler sur l'idée de l'homme vivant de façon éternelle. C'est vrai qu'à partir de cette hypothèse d'un couple âgé, dont la femme, elle a un désir d'enfant depuis son plus jeune âge et elle n'arrive pas à le réaliser pour moult raisons. Et son mari, la femme s'appelle Julie par rapport à Juliette, enfin, et son mari Romain par rapport à Roméo, Romain, lui, ne veut plus d'enfant. Il a eu ça, etc., mais avec une autre partenaire. Un jour, mais là, arrivé à 60 et plus, enfin, dans la soixantaine, il a décidé de prendre une retraite bien méritée parce qu'il a bien bossé, il a tout fait ce qu'il fallait en tant qu'être humain et il se retrouve avec sa partenaire qui, elle, désire de façon pratiquement pour lui maladive. C'est pour ça qu'il y a une opposition entre les deux. Lui, la traitant de folle, qu'à son âge, elle désire encore un enfant. Mais on sait que il y a, je pense, j'ai lu un article un jour qu'une femme, est-ce que c'est en Italie ou je ne sais plus, a donné naissance à un enfant. Elle avait 65 ans quand même. Et donc, à partir de là, pour moi, tout était possible. Bébé Bock était possible. Je pouvais le développer. Et c'est l'issue de ce conflit entre un homme qui rêve d'une retraite, qui ne rêve plus d'un désir impossible, et une femme qui continue à rêver un rêve impossible et qui va finir par le réaliser en faisant appel à une fondation qui existe aujourd'hui, hein, où cette fondation de la nouvelle ère s'occupe de fabriquer des utérus artificiels pour donner naissance justement à des enfants et satisfaire des désirs impossibles comme celui de Julie. Et cette chose-là va exister, voilà, c'est le spectacle.
Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément dans le jugement ou dans la morale stricte. Néanmoins, ces problèmes-là sont des problèmes de fond de société pour vous ?
Oui, c'est des problèmes de fond. Et moi, j'ai commencé à travailler sur Bébé Bock au moment de la problématique du mariage pour tous. Et j'ai vu à quel point ça entraînait de la violence, dans le fond. Tout ce que l'on croit rêver, à juste titre, parce que tout le monde rêve. Mais en même temps, il y a une morale, il y a des choses... des restrictions en nous qu'on n'arrive pas à dépasser. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à les dépasser ? Je ne sais pas. Il y a évidemment les croyances et tout. Mais ça peut aussi rendre violents les individus entre eux. Et c'est une vraie problématique. Et Bébé Bock, pour moi, je n'ai pas eu envie de juger. Je ne me suis pas dit, je vais dire, les scientifiques, ce sont des salauds. Julie, elle est folle, vraiment. Romain, il est con, etc. J'ai vraiment pas... eu envie de traiter ça comme ça, j'ai eu envie de traiter le sujet dans sa normalité presque. Une femme qui désire quelque chose, un homme qui désire autre chose, ce sont deux natures qui s'affrontent mais qui s'aiment.
En même temps, donc c'est humain de désirer, je suppose. Par contre, la solution peut ne pas être très humaine, c'est un peu ça l'idée ?
Voilà, parce que effectivement, et ça c'est basé sur des lectures, et aussi sur une réalité. Dans Bébé Bock, dans le fond c'est une œuvre fictionnelle, mais je n'ai pas voulu inventer. J'ai voulu me baser sur des éléments de réalité, sur des vraies choses, des vraies analyses par des scientifiques reconnus, et donc effectivement c'est humain. Oui, on a le souci que... Est-ce que l'homme va rester ce qu'il est ? Est-ce que l'homme ne deviendra pas... Comme on dit aujourd'hui, on parle déjà de l'homme augmenté. avec la biotechnologie, les nano, la nanotechnologie. J'ai appris aussi que Google travaillait sur une pilule que l'on ingère et qui fait une analyse complète de l'intérieur de notre corps. C'est époustouflant comme idée. À la fois, ça peut être bien et en même temps, ça peut être terrible. Et donc, mais en même temps, j'ai voulu voir la situation telle qu'elle est, telle qu'elle est possible, et en même temps confronter à ces possibles-là ce petit couple pour moi. Et évidemment, ils vont eux réagir par rapport à ça d'une manière normale. Julie va réagir par rapport au fait qu'à un moment donné, on va lui annoncer que son enfant est augmenté, non seulement augmenté, mais il est pratiquement parfait et que peut-être il va vivre 1000 ans. Et elle va être confrontée à cette chose-là, à ce rêve-là qui était le sien, mais qui est vraiment impossible. Elle va se retrouver, elle, confrontée à cette impossibilité. Elle aura un choix. Qu'elle va faire ? Ça, je ne dis pas. Les gens verront dans Baby Box. Et Romain également va être confronté à ce choix-là. Et forcément, il y en a un qui va peut-être y renoncer et l'autre va peut-être l'accepter vraiment. Et je pense qu'il n'y aura pas de conclusion générale. Le couple ne va pas conclure de la même manière. Ils vont conclure d'une manière différente, ce qui me semble tout à fait normal. Voilà, parce que je pense qu'on est tous à des degrés différents. Je ne crois pas qu'on est tous... on rêve d'une égalité, mais je crois qu'on a tous un point de vue, un libre arbitre, et face aux choses, on doit rester absolument libre de décider de son destin. Et ça, c'est très important. La liberté dans Bébé Bock est une chose que j'ai voulu vraiment conserver, c'est-à-dire est-ce que jusqu'à quel point sommes-nous libres de rêver ? Et quelle est la limite de ce rêve, quelle est la limite de la moquerie, de la drôlerie, etc. Enfin,
donc un spectacle, on imagine, qui va susciter la réflexion. Est-ce que au-delà, il peut aussi susciter la discussion, voire la rencontre.
Oui, bien sûr, évidemment, l'envie, elle est là. C'est-à-dire, si Bébé Bock est né de l'échange et de la complicité, forcément, l'envie est de rendre ce spectacle, le rendre à la discussion, rendre tout ce travail, que ça puisse faire partie d'un échange, être peut-être la base d'une conversation. Et c'est possible, voilà, puisque tous les thèmes y sont un peu développés, je veux dire l'enfant, la parentalité future, présente et future, la femme, enfin, la liberté de la femme aussi, la relation entre l'homme et la femme, et puis évidemment l'avènement de toutes nos technologies. Voilà.
Alors, ce spectacle est produit par la compagnie La Femme et l'Homme Debout. Ce n'est pas un hasard, c'est une compagnie qui est très active dans ces domaines de réflexion sociétale.
Oui, elle est très active et ça, je pense que c'est lié à la nature même de Catherine, qui est chanteuse à la base. Mais Catherine a vraiment le souci de trouver des sujets qui créent la discussion, qui créent l'échange, qui créent le... elle aime faire des ateliers avec des gens, elle s'occupe de l'estime de soi, elle fait pas mal d'ateliers à ce niveau-là. Même ses chansons, elle est auteur-compositeur et même dans ses chansons, je pense qu'elle essaye de parler du monde dans lequel elle vit. Et donc, c'est ça un peu son objectif, c'est de rassembler des gens dans sa compagnie. C'est ça que je trouve très bien, de rassembler des gens, de faire appel à des gens qu'elle connaît et de faire des créations à partir des questions qui nous occupent.
Comment donc son territoire, enfin le territoire de cette compagnie, vous a amené à l'intégrer ? Déjà, comment avez-vous été amené à l'intégrer par rapport à votre propre parcours ? Comment aussi vous choisissez les pièces dans lesquelles vous allez, soit que vous allez créer, soit vous allez jouer, soit vous allez faire interpréter ?
Mais bon, moi je suis, en tous les cas par rapport au théâtre, pour moi ça a toujours été important. J'ai commencé à Bruxelles, j'ai beaucoup joué dans ma vie, et j'ai créé beaucoup de compagnies, j'ai été à la création de pas mal de compagnies en Belgique, de pas mal de compagnies aussi en France. J'ai toujours travaillé avec des gens dont la préoccupation principale n'était pas le résultat, mais la préoccupation c'était le sujet. Et pour moi, peu importe la renommée de la personne, c'est l'important pour moi, c'était toujours de quoi parle-t-on et qu'est-ce qu'on veut faire, quel public rencontrer. Et évidemment, la démarche, elle est un petit peu plus anonyme, disons, que certains acteurs que j'estime beaucoup et qui ont évidemment ont eu comme objectif de se faire connaître par le grand public. Et voilà. Alors ces deux attitudes un peu différentes artistiques, je m'aperçois qu'aujourd'hui la reconnaissance pour tout le monde est devenue plus importante que ce dont parfois on parle. Je le vois, j'enseigne moi-même, j'ai des jeunes, et c'est vrai que parfois je m'interroge, je me dis mais qu'est-ce que vous cherchez, et beaucoup veulent évidemment être reconnus, hein. C'est des métiers aujourd'hui qui ont beaucoup plus de succès. Enfin, mon fils me dit, papa, quand je dis que tu fais du théâtre ou du cinéma, ils sont là en disant c'est génial et tout ça, et parfois on croit que je gagne des fortunes, ce qui n'est absolument pas vrai. Et donc moi je crois que le théâtre, la culture, c'est une démarche avant d'être un tremplin pour la reconnaissance de soi. Aujourd'hui, il y a parfois pas mal d'erreurs chez les jeunes, et je crois dans tous les domaines. Le fait de savoir que le travail en soi, ou la réussite en soi, c'est la recherche surtout de la recherche de soi-même, de son inscription dans le monde, et pas forcément la renommée. Voilà.
Donc on va revenir à la présentation de ce spectacle au public, c'est-à-dire au grand public, puisque ce spectacle est présenté, on va donner des dates, hein, soyons précis, le 11 à 20h30 au Théâtre du Millénaire, c'est à la Madeleine.
Oui.
Le 18 mars, ce sera à 20h à la salle des fêtes de Falampin, et le 22 avril à 20h au Petit Théâtre de Templeuve. Donc
voilà.
On va dire que c'est une tournée qui s'intéresse à tous les lieux de la région.
Voilà, c'est un début, hein, voilà. Mmh. Et puis il faut dire aussi que c'est pas évident aujourd'hui de faire du théâtre, hein, pour n'importe quelle compagnie. Alors il faut évidemment trouver des partenaires, et ces partenaires on a trouvé un partenariat avec le Théâtre de l'Aventure à M. Donc il y a des gens dans la région qui font un travail formidable, qui soutiennent vraiment la création. Après, les moyens dont on a disposé pour réaliser Bébé Boc, évidemment, ils sont extrêmement faibles. La région a été un soutien important. Après, la DRAC, etc. Vous savez, il y a une politique de la culture aujourd'hui qui a les yeux tournés vers l'économie. Et la création peut en pâtir, en souffrir véritablement. Et donc, moi, je trouve ça formidable que dans des petits lieux, les petits lieux où il n'y a pas de moyens, ils soutiennent vraiment la création. Il faut soutenir la création, parce que la création théâtrale, la création même cinématographique, mais essentiellement la création théâtrale, est un objet de vivre ensemble absolument extraordinaire. C'est magique.
Voilà, donc ces rendez-vous sont fixés, et après ça dépendra aussi de votre compagnie en termes de production, de diffuser.
Oui, là évidemment c'est la problématique de l'argent, parce que pour faire de la diffusion il faut de l'argent, il faut engager des gens, il faut que c'est un vrai travail énorme. D'ailleurs un spectacle comme celui-là représente un travail énorme, l'écriture c'est un boulot immense. La réalisation est un boulot immense. Ici, on a fait appel à l'image, au son, à la lumière. Donc, il y a un formidable travail de quelqu'un qui s'appelle Gordo, qui a fait une lumière particulière, une vraie recherche. Il y a Linka et Albe, qui a, c'est un, ils sont ensemble et ils travaillent sur l'idée du mapping, c'est-à-dire la projection d'une image, comme vous voyez dans, à l'extérieur, on peut produire une image sur une des murs d'église, etc. Et ils ont été très importants dans le rendu de Bébé Bock, mais c'est un travail phénoménal. Et tout ça à des prix vraiment dérisoires. Il y a Colette Gru qui a fait les costumes. Il y a Patricia Pekmezian qui a été l'œil extérieur. Donc, il y a un travail, j'en oublie Patrick Labli qui a travaillé sur le décor. Donc, c'est vrai que tous ces gens-là et toutes les personnes qui travaillent à l'administration. Donc, il faut dire qu'une compagnie qui est subventionnée de l'ordre, excusez-moi, mais de l'ordre de 5000 euros pour Bébé Bock, fait travailler en soi, faites le calcul de toutes les personnes que je viens de citer, eh bien fait travailler 8 à 9 personnes, c'est immense. Et on peut s'interroger là sur comment on fait, comment faire. Est-ce que les artistes aujourd'hui doivent donner à ce point de leur temps et de leur qualité dans le fond à des prix dérisoires. On est presque là dans un domaine complexe, enfin pour moi.
Alors, c'est vrai que toute cette énergie et ces investissements par rapport à une production, par rapport à un spectacle, à une création, tout cela, ça mériterait aussi d'être mis en perspective avec, par exemple, ce thème-là sur, justement, un terme de société. Comment il pourrait être, ce spectacle, présenté pour faire naître aussi un dialogue avec le public, mais aussi, par exemple, là, on est sur des domaines scientifiques, enfin, de problématiques scientifiques. Comment on pourrait associer, par exemple, des universités qui font de la recherche, voire des entreprises qui financent de la recherche ou qui... Voilà, on parlait tout à l'heure de recherche-développement. Pourquoi pas un jour intégrer aussi ces mondes-là ?
Bien sûr. Et bien sûr. Moi, j'avais travaillé ça ne me revient plus, le théâtre, pas à Québec, mais à Montréal. Le théâtre de Montréal est financé, si je me souviens bien, il est financé à 60% de l'argent public et 40% de l'argent privé. Et je pense qu'aujourd'hui, pour que, évidemment, puisqu'il y a un souci d'économie, on réduit pas mal les budgets publics, mais est-ce que effectivement, on ne pourrait pas faire appel dans le cas de par exemple de ce spectacle Bébé Bock qui parle quand même d'un sujet scientifique, est-ce qu'on pourrait pas faire appel effectivement à des aides si pas une aide financière, que au moins un public soit connecté, un accueil, que le public vienne et soutienne ce genre d'entreprise.
Parce que je vois des entreprises qui sont parfois mécènes, hein. Alors parfois c'est directement intéressé, le mécénat on peut beaucoup en discuter, hein. Oui. Mais en gros l'idée du mécénat d'une entreprise c'est d'essayer de, autour d'une œuvre, valoriser un petit peu la vie des gens qui travaillent dans l'entreprise en leur faisant porter une œuvre, quelque chose d'artistique. Mmh. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une société quelconque qui travaille dans des domaines scientifiques, médicaux, paramédicaux, je ne sais pas, puisse aussi dire voilà, on a un spectacle qui qu'on pourrait porter en tant qu'entreprise. Est-ce que vous pensez ça stupide ou possible ?
Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Moi, je pense, ce que je trouve formidable dans la vie, quand on est vivant, c'est qu'on peut rêver. Il faut être libre de pouvoir rêver, mais dans nos pays, on a une certaine liberté. Et je pense que l'imagination... Il y a un copain à Bruxelles qui s'appelle Claude Semal, qui est un chanteur peu connu, hélas, parce qu'il a écrit énormément de chansons, et aujourd'hui il en fait toujours d'excellentes. Et Claude, il me disait chaque matin je me lève et j'essaye d'avoir au moins trois idées. original. Je trouve ça formidable. Tout le monde devrait se lever avec en se disant qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, quelle est l'idée qui va me permettre de sourire, de créer quelque chose, de faire quelque chose, pas nécessairement de positif, mais d'imaginer. Je trouve que l'imagination est formidable. Moi, je vous jure, Bébé Bock, voilà, c'est né de l'imaginaire. Moi, Bébé Bock, il est né, je ne savais pas quoi écrire. Puis ça faisait des parce que évidemment je pense à Claude, hein, le matin quand je me lève je dis il faut que je trouve quelque chose, et je sais qu'un jour j'étais chez moi et il y avait le couffin de mon fils. Ça faisait des mois que je m'interrogeais sur qu'est-ce que je vais faire avec ce couffin. C'était ma vraie interrogation, ça, sans savoir que cette interrogation là allait faire naître Bébé Bock. Et en voyant ce couffin, je me suis dit oui, évidemment, moi j'ai envie de m'en débarrasser. Et si j'imaginais Julie qui a qu'un rêve, c'est de le garder. Et le Bébé Bock démarre en disant Romain, où as-tu mis le couffin? Et Romain lui dit je l'ai jeté à la poubelle. Et ça démarre sur ce conflit. Tout Bébé Bock a démarré dans le fond d'une sensation imaginative, c'est tout. Et je pense que l'imagination crée beaucoup de choses. Pas forcément des poèmes, pas forcément du théâtre, mais crée aussi la vie.
Alors, Roland Depau, on vous entend, on vous comprend certainement aussi, on comprend votre énergie, et on comprend qu'elle peut être mobilisée à tout moment pour la création, la créativité. Est-ce que tout le monde a votre chance dans le milieu culturel ?
Ma chance, non. Je pense pas que j'ai de la chance.
J'essaie de tempérament, je veux dire, qui permet de créer.
Oui, aussi, évidemment. Après, c'est ce que je dis à mes élèves. Dans le fond, c'est pas soi-même. Moi, je leur dis souvent, c'est les autres. Les autres sont nécessaires. Je voue un culte absolu à ce qui est vivant. C'est le vivant qui nous pousse à vivre. Et ça, c'est une chose importante. Pour moi, avant de dire tu ne tueras point, j'essaye de me dire mais tuer, c'est absurde, puisque le vivant te nourrit. Le vivant t'est nécessaire. Tu vas pas tuer le vivant pour te tuer toi-même. En tuant l'autre, on se tue soi-même. Et j'ai l'impression, pour moi, que c'est vachement important de s'en référer à ce qui est vivant. Pour moi, je ne me sens pas nécessairement capable de telle ou telle chose. J'essaye de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce monde, pourquoi je vis dans ce monde, qu'est-ce que j'y ai à faire. Alors si ma préoccupation c'est de me dire que je dois être très bien, très poli, très gentil, parce que dans un autre monde je vais me réaliser, pour moi ça va pas, ça. Je dois être gentil, poli, tout ça, mais surtout parce que il faut se réaliser ici et maintenant. Et je pense que c'est une chose fondamentale. Bébé Bock, il est là parce que il est poussé par l'idée, il faut le réaliser, réalisons-le maintenant. Il n'y a pas d'autre endroit. Et pour moi, exister, c'est une chose présente. Mon énergie est liée à ça. Je me lève le matin en me disant, qu'est-ce que je peux donner dans ce monde pour vivre ? Rien que pour me dire j'ai vécu. Parce que ça sert à quoi alors ? Vraiment, à quoi ça sert ? À quoi servons-nous ? On sert, je pense, à être là et à faire en sorte que la journée s'accomplisse. C'est Léopold Senghor qui disait, alors qu'il a été président, il a fait tellement de choses, Léopold Senghor qui dit « Chaque matin, quand je me lève, j'ai envie de me suicider. » C'est terrible, cette idée. C'est terrible. Et moi, par rapport à ça, je me dis « Chaque matin, quand je me lève, je me dis « Qu'est-ce que je peux faire pour me dire que je vais vivre et que je ne vais pas me suicider, me supprimer ?» Voilà.
Alors, Roland de Peau, on va aborder peut-être une question plus grave au travers de votre propos. Beaucoup de jeunes désespèrent, et pas forcément d'ailleurs sur des données relativement objectives, parce qu'ils sont en situation difficile, délicate, n'ont pas trop d'avenir, pas trop d'illusions. Qu'est-ce qu'on peut... Bon, vous, on a compris, le spectacle peut amener des idées et puis une énergie et puis tout ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait aussi préconiser pour que ces jeunes puissent intégrer éventuellement le théâtre ou y trouver peut-être non seulement une énergie, mais aussi une nourriture?
Mais vous savez, pour moi, ce qui est très important, c'est le sens... On vit en regardant ce qui nous entoure, mais si on vit en regardant ce qui nous entoure sans essayer ni de comprendre, ni de s'interroger, on vit comme des animaux. À partir du moment où on vit et que effectivement ce qui nous entoure ne correspond pas forcément à ce que l'on souhaite, mais en tous les cas, parce que nous sommes vivants, nous pouvons faire ne fût-ce qu'une toute petite chose pour apporter quelque chose. Nous sommes nécessaires. Il faut se rendre compte que nous sommes nécessaires pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants, pour notre entourage. Il y a un élève comédien qui m'a interrogé un jour et il était très embêté. Il me dit je fais tout, j'ai tout fait, j'ai passé des auditions, des castings, etc. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire pour être engagé. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire. Et je lui dis mais franchement, tu habites où? Il est à Mons, dans une ville, d'accord, ok. Je dis, mais et là, à Mons, pourquoi tu cherches à devenir comédien? Tu cherches à devenir connu, etc. Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est une recherche un peu folle? Être reconnu, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de t'interroger là où tu es, là où tu vis. Et là où tu vis, tu crois que, avec ce que tu sais faire, parce que tu sais jouer la comédie, tu sais raconter des choses, tu aimes ça, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose à l'endroit où tu vis, sans te préoccuper si ça va être reconnu ou pas? Est-ce que tu peux faire gratuitement quelque chose, rien que pour être nécessaire, utile à quelque chose? Et là, d'un coup, j'ai vu que je le déstabilisais un petit peu, et je crois que très souvent, je pense que c'est pas la question de l'espoir. C'est horrible ce que nous vivons. Mais là où on vit, même dans la difficulté, même dans, entre guillemets, la merde, excusez-moi du mot, mais même là, il y a quelque chose en nous qu'il faut trouver. La force est en nous. Ça, j'en suis plus que convaincu. Il faut s'interroger. Un dernier exemple, si j'ai le temps, j'ai connu un Kay Banatar. Il est décédé depuis un certain temps. C'était un griot tchadien. C'est un grand ami. C'est quelqu'un que j'ai énormément et apprécié dans ma vie, et j'ai travaillé avec lui. Et Keba m'a un jour raconté sa venue en France et comment il a fait. Il est venu sans rien. Comment faire quand on n'a rien et qu'on arrive dans un lieu où on n'a rien, où on connaît personne? Keba, il a créé lui-même son balafon. Parce qu'il aimait le balafon, il avait en lui cette connaissance-là. Il a créé, dans les poubelles, il a créé son balafon qui était unique. Et il sonnait comme du métal, alors que c'était du bois. Et il a tellement charmé les gens, le public, qu'il a fini par construire une maison au Keba. Avec le balafon qu'il a construit. Et tout ça, je me suis toujours interrogé. J'ai dit, mais Keba, comment t'as trouvé cette force-là? Il m'a dit, mais tu sais, cette fameuse initiation en Afrique, il l'avait vécue. Il a dit, je dis pas qu'il faut faire ça, évidemment, bien entendu, mais enfin, il faut en mesurer l'importance quand même. C'est que, il me dit, moi, à 13 ans, j'ai connu l'initiation, c'est-à-dire qu'on m'a mis dans le
dans la brousse. Mon père m'avait indiqué plein de choses, il m'avait raconté, je voulais même le traduire au théâtre avec lui. Et il me dit, quand je me suis retrouvé tout seul dans la brousse, avec l'enseignement de mon père, je me suis retrouvé vraiment tout seul, entre la vie et la mort. Et là, j'ai dû faire des choix. Et là, j'ai dû m'en référer à exactement ma vraie connaissance. Et il dit, je m'en suis sorti. Mais je m'en suis sorti, et quand, parce que je me suis sorti d'avoir été confronté si intimement à la réalité, la vraie réalité. Il dit, je me suis senti capable d'être balancé dans n'importe quel lieu du monde et de m'en sortir. Et je pense que c'est ça aussi, cette chose importante, de prendre, de puiser les choses dans ce que l'on connaît, dans les ressources que l'on a, parce qu'on est toujours en état de survie quelque part.
Voilà, effectivement, voilà. Bon. Tout ça, c'est d'autant plus facile que le jeune en question est dans un cadre structurant, évidemment.
Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr, je n'oublie pas ça. Mais même dans un cadre non structurant, je crois que j'ai l'impression que le tort, c'est de vouloir se replier sur soi-même. Et je crois qu'il faut faire confiance dans ce qui nous entoure.
Et confiance dans la rencontre.
Oui, ça c'est évident.
Merci Roland Depau, bonne journée.
Merci.